connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Fabrice Châtelain. Bonjour mon père.
Bonjour.
Vous êtes curé de paroisse dans le diocèse d'Aix-en-Provence, qui doit être bien agréable.
Oui, tout à fait, oui.
Vous avez été missionnaire pendant 10 ans au Pérou, ce qui doit être également une expérience profondément enrichissante. Vous êtes l'auteur d'un blog suivi, Apophtegme, que je recommande à nos auditeurs, et vous venez de publier un ouvrage chez Artege de 250 pages vendu 16 euros, qui me semble absolument fondamental. Nous irons tous au paradis, des réponses claires à la question, la vie et après. Mon père, si j'ai bien compris, c'est à travers votre blog que vous vous êtes rendu compte de l'anxiété, disons, de nos contemporains vis-à-vis de cette question de la vie après la mort et surtout de l'absence totale de réponses claires pour la plupart des gens, y compris des chrétiens pratiquants. Comment expliquez-vous cela ?
Oui, alors à travers le blog, pas vraiment, parce qu'en fait, dans le blog, il n'y a pas d'interaction. J'écris, mais j'ai supprimé la possibilité de faire des commentaires. Donc, c'est pas là que j'ai eu des réponses. Non, c'est plus avec l'expérience en paroisse. C'est-à-dire que je me rends compte, au fil des conversations avec les uns, avec les autres, au cours de préparation de baptême, de mariage, d'obsèques, que personne ne sait rien sur rien. Enfin, quand je dis personne. Sauf exception, évidemment. Mais l'immense majorité des chrétiens n'ont aucune idée claire sur ce qui se passe après la mort. Dans le meilleur des cas, ils pensent que là-haut, il y a un truc, quelque chose, on ne sait pas trop quoi, et puis qu'après, il y a une espèce de survie de l'âme, on ne sait pas trop comment, et c'est à peu près tout, ça s'arrête là. Et ça, si c'est la foi chrétienne, moi, je suis le Dalai Lama.
Il faut reconnaître que c'est un peu court. Vous avez intitulé votre ouvrage, ce qui est une gentille provocation, « Nous irons tous au paradis », par allusion à la chanson de Michel Polnareff. Et vous dites, si vous croyez ça, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes polnareffien.
Oui, c'est tout à fait vrai.
C'est tout à fait vrai. Et disons les choses, nous allons peut-être peiner un certain nombre d'auditeurs. Tous au paradis, c'est une idée fausse.
Ah, en tout cas, ce n'est pas une idée évangélique. Ça, c'est certain. Si on prend la peine de lire le Nouveau Testament, il n'y a pas une seule fois, pas une seule, où Jésus nous dit « Vous en faites pas, c'est plié, vous allez tous aller au paradis, c'est réglé, je m'occupe de tout, laissez-vous faire, ça va bien se passer. » Au contraire, quand on relit les évangiles et qu'on accepte d'entendre ce qui est dit, et non pas d'entendre que ce qui nous convient, il ne cesse de nous avertir, il ne cesse de nous dire que il y a ceux qui iront à droite et puis ceux qui iront à gauche. Il y aura les brebis et puis il y aura les boucs. Il y aura ceux qui seront jetés dans la géhenne de feu et il y aura ceux qui seront en présence de Dieu. Il y aura ceux qui rentreront dans le festin céleste et il y a ceux qui seront jetés dehors, là où il y aura des cris et des grincements de dents. C'est un espèce de leitmotiv. Il en parle du début à la fin. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Si on lit l'Ancien Testament, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'on nous parle de vie éternelle, c'est loin d'être acquis. Et c'est pas du tout une espèce de donnée de base. On est tous sauvés et ensuite, il y a peut-être un peu des détails, mais c'est pas très important. Non, jamais de la vie, les Écritures saintes ne disent ça.
Autrement dit, l'avertissement est un peu plus clair et il vient quand même d'une personne plus qu'autorisée.
C'est-à-dire que le point de base, il est très simple. Si on est chrétien, on se revendique comme chrétien, ça veut dire qu'on croit au Christ. Donc, on croit concrètement que le Christ, Jésus, est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Dieu n'est de Dieu, lumière n'est de la lumière, vrai Dieu n'est du vrai Dieu, etc. Si on croit qu'il est Dieu, a priori, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est-à-dire qu'il ne ment pas. Le mensonge, c'est une invention du démon, pas de Dieu. Et il sait ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui nous a créés, il sait à peu près comment ça fonctionne. Donc, si Jésus nous dit ça, et qu'on prétend être chrétien, il n'y a pas tellement de discussion. C'est-à-dire que soit on est d'accord avec ce qu'il dit, et on est chrétien, soit on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, et on n'est pas chrétien. Mais ce n'est pas possible de prétendre être chrétien sans être d'accord avec ce que dit le Christ.
Cela semble totalement évident, mais pourtant, nous constatons tous, vous venez de le rappeler, mon père, que nous sommes depuis quelques décennies dans un monde et dans une église où l'on ne parle quasiment plus des fins dernières.
Oui, on ne parle plus grand-chose d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de payer, bon je sais que c'est un marronnier et que ça semble toujours l'excuse facile, mais on est toujours en train de payer, il est interdit d'interdire, etc. La grande époque Paul Naréfienne, j'ai rien contre cet homme-là, hein, je n'en veux pas personnellement, mais tout va dans le même sens. C'est-à-dire qu'à un moment, ma théorie personnelle, ça vaut ce que ça vaut, c'est moi qui le dis, c'est pas l'Église, mais il y a une génération qui massivement a refusé de transmettre la foi à la génération suivante. Voilà. Pas dans les cas particuliers, mais en général, massivement, il y a eu un rejet brutal et total de la transmission de la foi. Et ce rejet, bon an mal an, a influencé l'Église. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous disait, par exemple, qu'il ne fallait pas faire des sermons à la messe. Faut pas faire peur aux gens. Et puis, faut pas dire des trucs de morale chrétienne, parce que ça effraie tout le monde. Donc, il faut faire des espèces de paraphrases de ce qu'il y a dans l'Évangile, ou alors éventuellement même baser son homélie sur ce qu'on a vu dans les journaux du jour. Et puis, ça va bien comme ça, quoi. Parce que bon, c'est bon, mais c'est pas la peine d'embêter les gens avec de la doctrine, mot impossible, des dogmes. Oh mon Dieu, c'est encore pire. Donc, il faut pas faire peur. Voilà. Alors, on raconte n'importe quoi, comme ça, ça fait peur à personne, vu que ce n'est pas des sujets polémiques. Mais le problème avec tout ça, c'est que vous pouvez avoir une chaîne aussi longue et solide que vous voulez, si vous cassez un maillon, bah, votre chaîne ne vaut plus rien. Voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la transmission de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a rejeté tout ce qu'on savait, parce que ben, ça ne convenait plus à ce qu'on voulait entendre. Hein, c'était tout à fait dans l'air du temps de ce qu'on est devenu depuis, d'ailleurs, avec les fake news et compagnie. Et ben, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est mis à remplacer des millénaires de foi et de réflexion par des slogans. On ira tous au paradis, l'enfer n'existe pas, ou s'il existe, il est vide. Des choses qui nous arrangent, mais qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne.
Mais est-ce que vous nous dites, mon père, c'est excessivement grave parce que, comme vous le rappelez dans le livre, le risque de se damner est quelque chose de parfaitement, parfaitement réel et nous sommes en quelque sorte dans un cas de non-assistance à personne en danger de mort éternelle.
C'est-à-dire qu'on est dans un cas de refus d'évangélisation de la part de ceux-là même dont c'est la vocation et le charisme. C'est-à-dire que si l'Église a toujours été missionnaire, c'est pas dans un esprit de conquête ou dans un esprit d'obliger qui que ce soit à je ne sais quoi. C'est pour sauver les gens. Je veux dire, partout où l'Église est allée évangéliser, le but, c'était pas encore une fois un but de conquête, c'était un but de salut. On voulait sauver les gens. Et on était absolument persuadés que si on n'allait pas leur expliquer les histoires justement de salut et comment est-ce qu'il fallait s'y prendre, eh bien, personne ne serait sauvé.
Il est bien évident que la plupart des missionnaires qui sont allés se faire martyriser en Extrême-Orient ou ailleurs n'y sont pas allés pour des questions de conquête coloniale, mais bien pour porter le Christ et la vérité du salut à ces populations.
Ah oui, c'est parfaitement évident. Moi j'ai vécu en Amérique latine. Si on prend la peine de lire la véritable histoire et non pas la légende noire, comme on obligeait les pauvres Indiens à devenir chrétiens parce que sinon on allait les brûler sur un bûcher, ce qui est totalement faux historiquement. Et l'idée c'était celle-là. On se disait qu'il fallait absolument leur porter le Christ. Et d'ailleurs c'est drôle que Isabelle la catholique, à un moment, je ne sais plus comment ça s'appelle le truc de Valladolid là.
La conférence.
Oui, dit il faut aller les évangéliser amoureusement, parce que ce sont nos frères humains et que nous devons leur porter le Christ pour qu'ils obtiennent le salut. C'est-à-dire que c'est une espèce d'obsession permanente de l'Église. Il faut transmettre la foi que nous avons reçue pour que d'autres que nous puissent aussi bénéficier du même salut. Et si on enlève ça d'ailleurs, l'Église n'a plus de raison d'être. Je veux dire, si on est tous sauvés, si tout le monde va au paradis, on peut faire n'importe quoi, on est baptisé, on l'est pas, on pêche pas, d'ailleurs le péché n'existe plus, ni le diable, ni quoi, ni qu'est-ce. Je veux dire, qu'est-ce que je fais là?
Bonne question.
Qu'est-ce que l'Église fait là? À quoi on sert? Je ne suis pas une assistante sociale, je ne suis pas un gardien de musée. Ça ne m'intéresse pas, moi, de garder les murs vides d'une église ou de m'occuper juste d'aller distribuer des soupes populaires. C'est très sympa, tous ces trucs-là, mais enfin, ce n'est pas le cœur de la mission chrétienne. Le cœur de la mission chrétienne, c'est Jésus qui nous dit « Allez évangéliser le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et annoncez-leur la bonne nouvelle de la résurrection. » Oui, il y a une bonne nouvelle de la résurrection, mais il y a un chemin à suivre. Voilà. Et ça, on ne peut pas le passer sous silence parce que, bah, comme vous dites, c'est non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'on sait quel est le chemin du salut, mais on ne le dit pas aux gens parce qu'on ne veut pas leur faire peur. C'est comme si quelqu'un avait aujourd'hui le vaccin contre le virus, mais qu'ils ne veulent pas en parler parce que, comme les gens sont déjà saturés avec le virus et qu'ils ont déjà très peur, on ne va pas rajouter un petit peu, donc on ne va pas parler de ça. Ça n'a pas de sens.
C'est en quoi votre livre, non seulement est une réflexion sur les fins dernières, ce qui pourrait peut-être paraître à certains auditeurs un sujet grave et peu attrayant. Je les rassure tout de suite, c'est très agréable à lire et c'est même souvent très amusant. Mais je dirais qu'avant d'être une réflexion sur les fins dernières, c'est un guide de voyage. Vous expliquez en fait comment l'on fait pour ne pas se perdre, pour aller dans le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, vous ne le décrivez pas parce que aucun d'entre nous ne peut. Mais vous dites comment fait-on pour y arriver? Et vous disiez tout à l'heure, mon père, quelque chose d'intéressant en citant la reine Isabelle la catholique. Vous disiez qu'elle parlait d'évangéliser nos frères amoureusement. Or, n'est-ce pas le fond du message que vous faites passer, que vous rappelez, qui est révolutionnaire si on y réfléchit bien? Dieu est amour.
Oui, ben c'est effectivement, c'est amusant que ce soit révolutionnaire encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, parce que c'est un tel choc en définitif. C'est-à-dire que Dieu n'est plus cette espèce de puissance, de toute puissance qui peut nous écraser à n'importe quel instant si on le met de travers, et donc il faut lui offrir des trucs et des machins en échange de sa bienveillance. Tout d'un coup, ça devient quelqu'un qui veut plus notre bien que nous ne le voulons nous-mêmes, et qui est disposé à nous pardonner n'importe quoi dans la mesure où nous sommes prêts à revenir à lui, et qui est prêt à effacer l'ardoise de nos péchés à n'importe quel instant, pour peu qu'on prenne la peine de lui en demander pardon. Effectivement, et en plus, non seulement ça, mais ce que nous propose le Christ, c'est pas de devenir comme des dieux, comme le proposait le diable dans la Genèse, c'est de devenir Dieu, ce qui est encore plus hallucinant. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de jouer à être Dieu en inventant au gré de nos caprices ce qui est bien et ce qui est mal, ou en le définissant. Il s'agit d'entrer dans le mouvement trinitaire d'amour de Dieu, et donc de faire partie de ce mouvement perpétuel qu'est la Trinité et qui est Dieu amour. Donc effectivement, c'est absolument révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est totalement contraire à la conception, on va dire, primitive de la religion. C'était plus une question de, bon, comment est-ce qu'on va s'arranger pour que les forces de la nature ne nous écrasent pas? Voilà. Et donc celui qui les conduit, on va essayer de se mettre d'accord avec lui pour qu'il nous laisse en vie, quoi. Là, on n'est plus du tout dans ce paradigme. On est dans une demande d'amitié, c'est-à-dire que Dieu humblement nous demande « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu veux devenir mon ami ?» Voilà.
Le paradoxe de tout cela, c'est que Dieu est amour, mais en même temps, il nous laisse libres.
Ah mais justement, c'est bien le nœud du problème. C'est que parce qu'il est amour, il accepte notre choix, même si notre choix consiste à le rejeter. C'est ça qui est dingue. Parce que l'argument habituel, c'est ça. C'est bon, Dieu est amour, donc on est sauvé. Okay.
Oui, Dieu est bon, il ne donne personne.
Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que parce que Dieu est amour, il ne nous force pas à l'aimer. Parce que s'il nous forçait à l'aimer, ce serait plus de l'amour, ce serait du viol. Donc, Dieu est amour, oui, mais le fait qu'il soit amour fait que si on n'a pas l'intention de passer notre éternité dans son royaume, eh ben on ne la passera pas parce qu'il va respecter notre choix. Regardez, moi je prends toujours cet exemple parce que je le trouve très parlant. Les portes du paradis à partir de la résurrection du Christ sont grandes ouvertes, tant mieux. Mais si je ne les franchis pas, ça sert à quoi? Moi, les portes de mon église, le dimanche, bon, quand on n'est pas en confinement, elles sont grandes ouvertes. Mais ça sert à quoi pour toutes les personnes qui ne les franchissent pas pour venir à la messe? Absolument à rien. C'est très exactement le même principe. C'est-à-dire que les portes soient ouvertes, oui. Que le pardon soit acquis et offert, oui. Mais encore faut-il les accepter. Encore faut-il dire oui.
Et nous touchons là à un autre problème, mon père, que vous résumez bien avec votre histoire de porte d'église ouverte que les gens ne franchissent pas. C'est qu'il y a bien sûr des gens qui rejettent Dieu pour de bon, ceux qui ne veulent pas de Dieu dans une liberté humaine mal comprise, ou par haine de Dieu, ça arrive également malheureusement. Mais il y a aussi tous ceux, comme vous le disiez tout à l'heure, auxquels on n'a pas porté la bonne nouvelle et qui ne franchissent pas les portes de l'église parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Et c'est en ça que votre livre est intéressant, parce que vous rappelez de manière très simple, très pédagogique, très humoristique parfois, ce que l'église apporte, en quoi l'église qui n'est pas une œuvre humaine sert véritablement à nous conduire à Dieu et à la vie éternelle.
Oui, bah c'est-à-dire qu'elle ne sert en réalité qu'à ça. La raison d'être de l'institution église, c'est la transmission de l'évangile. Si elle ne sert pas à ça, alors elle ne sert à rien. Il faut la supprimer. Voilà. Par contre, elle sert véritablement à ça et à plus d'un titre d'ailleurs. J'avais lu à une époque un livre écrit par un Irlandais qui prétendait que sans l'Église catholique, on n'aurait plus la Bible aujourd'hui, en tout cas pas le Nouveau Testament. Parce qu'à la grande époque des invasions barbares, qui a duré quelques siècles, toutes les Bibles du monde occidental avaient été brûlées. Et les seules qui se sont conservées, c'est celles qui, en Irlande, étaient inlassablement recopiées par des armées de moines scribes, grâce auxquelles on a aujourd'hui les évangiles. C'est-à-dire que prétendre lire, par exemple, les évangiles et en tirer toute notre inspiration divine sans passer par l'Église, c'est un contresens, parce que sans l'Église, les évangiles, on ne les aurait pas. Voilà. Donc là, on voit, par exemple, dans cet exemple précis, que l'Église tient son rôle. C'est-à-dire qu'elle est le vaisseau dans lequel est conservée l'intégralité de la révélation. Voilà. Mais c'est à ça qu'elle sert. Et donc, l'Église, ce n'est pas juste les curés et les bonnes sœurs. L'Église, c'est n'importe quel chrétien, c'est n'importe quel baptisé qui a comme responsabilité de transmettre ce qu'on lui a donné. Après, la génération suivante en fera bien ce qu'elle en voudra, comme la génération d'avant en a fait ce qu'elle en a voulu, comme toutes les générations font ce qu'elles veulent. Mais on ne peut pas choisir si on ne sait pas. Choisir entre rien et pas de grand chose, c'est assez compliqué. Donc, l'Église dans son ensemble, dans son intégralité, pas juste les moines, les moniales, le pape et je ne sais pas qui, a la responsabilité de transmettre cette connaissance du royaume de Dieu, du salut offert par le Christ, et de quel est le chemin, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend. Moi, j'aimerais bien aller au paradis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, voilà.
Il y a des moyens pour cela, la messe et les sacrements, mais en ce moment, la messe, nous en sommes privés. Ce qui me laisse un peu interloqué par moments, c'est que j'ai l'impression, pour certains chrétiens, être privé de la messe, ça n'est pas si dramatique que ça. Pourtant, ça l'est, mon père.
C'est-à-dire que c'est pas si dramatique. Moi, je dois avoir à peu près 20 000 âmes dans mes 4 paroisses. Je crois qu'on doit être à peu près 200 à aller à la messe le dimanche. Donc, effectivement, pour l'immense majorité, c'est pas dramatique. Ça, c'est peu de le dire. Mais que les gens viennent ou que les gens viennent pas, c'est là que ça se passe, je veux dire. Parce qu'on reproche souvent au christianisme, comme à toutes les religions d'ailleurs, de croire en un ami imaginaire, quelqu'un que personne n'a jamais vu, etc., etc. Mais justement, le christianisme, c'est pas du tout ça. Comme le dit Saint Jean dans sa première lettre, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Or, ce verbe de vie que les apôtres ont vu, touché, entendu, etc., il est conservé sacramentellement dans toutes les églises et dans n'importe quel tabernacle habité, il y a la présence physique, réelle, sacramentelle, mais non moins physique et non moins réelle, du Christ. C'est-à-dire que c'est véritablement là que ça se passe. Et non seulement on peut le voir, non seulement on peut lui parler, mais en plus on peut même le manger, quand les choses fonctionnent correctement, évidemment, quand on n'est pas dans une période de pandémie. Mais donc, effectivement, c'est absolument essentiel, parce qu'on ne peut pas croire sans jamais voir. Or, à l'Église, on est en présence du Christ, et d'ailleurs on le ressent. Combien de gens qui viennent à la messe par hasard, pour un baptême, un mariage, un truc, et à la fin qui disent « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien, ah si tous les curés étaient comme vous », alors je leur fais toujours remarquer qu'ils le sont tous, mais que comme ils n'en connaissent aucun, ils ne peuvent pas le savoir. Et oui, bah, si c'était comme ça partout, tout le monde irait à la messe, alors je leur fais remarquer qu'ils peuvent venir dès le dimanche suivant. À quoi ils me répondent, oh, bah oui, mais bon, bah, on n'a pas le temps. Voilà, donc les gens savent que c'est là que ça se passe. Mais après, la graine qui est semée au milieu des buissons, est-ce qu'elle verra un jour la lumière? Il n'y a rien de moins sûr.
Le problème, c'est qu'à force de négliger les moyens du salut qui s'offrent, on part dans la mauvaise direction.
Oui, alors c'est exactement ce que disait d'ailleurs Sainte Thérèse d'Avila dans une de ses lettres à des religieuses. Elle dit « Ma fille, avant de partir dans tous les sens et de faire toutes sortes de choses pour Dieu, commence pour vérifier si c'est les bonnes. Parce que sinon, tu vas être fatigué, tu auras beaucoup couru pour rien. » Alors oui, tu auras beaucoup couru, tu seras beaucoup fatigué, mais pas pour aller dans la bonne direction. Or, l'Église nous donne une direction claire, les sacrements nous en donnent les moyens, et ça commence par là, ça ne s'arrête pas là. Dire être chrétien, c'est pas juste aller à la messe. Aller à la messe, c'est se donner les moyens d'être chrétien, c'est pas la même chose. Hein. Mais il n'empêche que c'est un moyen particulièrement nécessaire. Parce que quand on n'y va pas, bah, au bout d'un moment, déjà, on ne sait même plus en quoi on croit. Enfin, si... On croit dans des trucs, mais on ne croit plus dans la foi chrétienne. Quoi. La foi chrétienne, elle se partage en communauté. Ce n'est pas juste une foi individuelle que les uns et les autres peuvent se façonner suivant ce qui les arrange, en enlevant tout ce qui ne les arrange pas, d'ailleurs.
Et si l'on part dans la mauvaise direction, mon père, on arrive tout de même à un endroit où on ne peut souhaiter à personne de finir.
Bah, c'est-à-dire que la chance qu'on a, et ça c'est merveilleux, c'est que autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, Dieu le Père, comme le Christ, ne cesse de dire « Convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 100 justes qui n'ont pas besoin de la conversion. Je suis venu pour les malades et les pécheurs. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il ne cesse de nous supplier de revenir. Alors effectivement, on peut avoir suivi le mauvais chemin en le sachant ou sans le savoir. On a toujours, tant qu'il nous reste un souffle de vie, la possibilité de revenir à Dieu. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'effectivement, aller en enfer, c'est pas particulièrement rigolo. C'est-à-dire que bah, l'enfer, c'est quoi ? C'est pas des petits diablotins qui nous picotent là derrière dans un chaudron. L'enfer, c'est passer son éternité sans Dieu, donc sans amour, donc sans personne qu'on aime. Ça va être long, hein. Parce que passer son temps sans être aimé par personne et sans aimer personne, honnêtement, et en plus entouré par des gens qu'on déteste et qui ne peuvent pas nous voir en peinture, franchement, ça va être long. Mais il y en a peut-être qui aiment ça et qui disent bah, « moi, c'est ça que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix. » Mais le paradis, par contre, c'est passer mon éternité avec Dieu qui est amour et qui m'aime plus que je ne serais jamais capable de m'aimer moi-même et avec toutes les personnes qui ont choisi l'amour. C'est quand même autre chose. Dans un cas comme dans l'autre, on sera éternel. Mais dans un cas, on remplira notre vocation qui est d'avoir été créé par amour pour vivre dans l'amour pour l'éternité. Et dans l'autre cas, ben, on aura cassé cette vocation et alors définitivement. Parce qu'il n'y a pas de retour. Étant donné que les réalités éternelles se passent en dehors du temps et de l'espace, on ne peut plus changer d'avis, on ne peut plus revenir en arrière. Non, c'est ici et maintenant qu'il faut se décider pour le Christ. Et quand bien même on aurait fait les 400 coups et les pires choses, tant qu'on est encore en vie, on peut revenir à Dieu. Je pense que c'est surtout ça le message important de l'Évangile. Ce n'est pas tellement de dire « Ah, il y a l'enfer, faites attention, mon Dieu, c'est terrible ». C'est surtout de dire « Mais vous êtes obligé d'y aller. Hein. » Personne n'est obligé d'y aller. Ce n'est même pas fait pour nous à la base. Il n'a pas été fait pour nous, l'enfer. Il a été fait pour le diable et ceux qui le suivent. Donc, n'y allez pas, quoi. Et si on peut rappeler que son existence est réelle, le risque d'y aller est réel, c'est pas juste une façon de parler, c'est pas juste une parabole, mais qu'on peut parfaitement y échapper, ça ne dépend que de nous, alors pourquoi s'en priver ?
Mon père, cette émission touche malheureusement à sa fin, car on vous écouterait beaucoup plus longtemps que ça. Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier aux éditions Arthège « Nous irons tous au paradis ». Des réponses claires.
Alors, si je peux permettre, qui est à 17,90, hein, il n'est pas à 16 euros. Le prix
17,90, oui, j'ai mal lu, effectivement. Et je vous remercie. Mon père, c'est un livre passionnant que je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs parce que vous remettez les choses en place avec beaucoup de talent, beaucoup d'humour, beaucoup de pédagogie. Et je pense que c'est un livre qu'il faut faire lire non seulement aux chrétiens un peu déboussolés, mais également à ceux qui ne croient pas et qui pensent que l'Église est une sorte d'ONG, si ce n'est une vaste escroquerie. Merci encore, mon père.
Merci à vous.